Vous écoutez France Culture.
Le journal est présenté par Martin Bartoletti.
Bonjour. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Question posée dès ce matin sur les ronds-points, toujours occupés au lendemain d'une mobilisation jaune pâle. Du côté de l'exécutif, on a déjà la réponse, il faut recréer la confiance avec les Français. À Strasbourg, les lumières du marché de Noël brillent à nouveau. Ce matin, des bougies ont illuminé le ciel alsacien lors d'une cérémonie en hommage aux victimes de l'attaque de mardi soir. Nous sommes à court d'excuses, cri du cœur d'une écologiste suédoise à la COP24 en Pologne. La réunion sur l'avenir du climat planétaire s'est conclu sur le strict minimum et un manque cruel d'ambition. Une trêve bien fébrile au Yémen, la région d'Odeida encore bombardée aujourd'hui en dépit d'un cessez-le-feu conclu sous l'égide de l'ONU. À la fin de ce journal, on retrouve Nabila Hamel pour la face cachée du globe au programme la prochaine COP25 au Chili et les tensions en République centrafricaine. Le bleu a dominé le jaune hier pour l'acte 5 de la mobilisation en faveur de plus de pouvoir d'achat. Les forces de l'ordre déployées sur le territoire ont été plus nombreuses que les manifestants. Des rassemblements clairsemés, mais aussi beaucoup moins violents. 66 000 gilets jaunes dans tout le pays contre le double la semaine dernière. Bonjour David Ravier.
Bonjour Martin.
Après un samedi donc de contestation un peu triste, comment pourrait évoluer la suite du mouvement?
Eh bien la journée d'hier n'avait rien à voir avec les épisodes précédents, en termes de violence que de mobilisation. Après, ce n'est pas parce que le mouvement a été moins suivi que prévu que l'on peut parler de victoire. Comme l'expliquait ce matin chez nos collègues de France Inter, la vice-présidente de La République En Marche à l'Assemblée nationale, Amélie de Montchalin.
Il faut absolument que le calme revienne. Moi, il y a deux choses dont je suis certaine. C'est que c'est pas en allant tirer des coups de feu devant chez les députés comme vendredi soir dans l'heure devant le domicile de Bruno Ketel. C'est pas en allant brûler les voitures des députés comme la semaine dernière qu'on va résoudre les sujets des Français. Donc, la bataille, elle n'est pas gagnée. On gagnera cette bataille quand on sera capable de recréer de la confiance avec les Français.
L'idéal serait donc, selon l'exécutif, de retrouver une atmosphère apaisée afin d'engager des négociations. Sauf que dans un mouvement sans porte-parole fédérateur pour faire entendre le message et entièrement un dialogue, ce sera compliqué.
Une faible participation hier, David, ne veut pas dire que le mouvement s'essouffle. Ce matin, par exemple, les gilets jaunes sont encore en action.
Oui, parce que bien que l'on focalise notre attention sur les rassemblements de samedi, il faut garder à l'esprit que les gilets jaunes sont toujours sur les ronds-points depuis un mois. Ce qui signifie que le mouvement est loin d'être terminé et que nous ne sommes pas à l'abri d'un acte 6. L'une des solutions qui revient régulièrement dans les manifestations, c'est le référendum d'initiative citoyenne qui donnerait plus de pouvoir aux habitants. Si jamais il était mis en place, cela ne calmera pas les plus virulents, mais à défaut d'avoir un leader qui s'exprimera à leur place, ils pourront mieux défendre leurs idées.
Explication signée David Ravier pour France Culture. Des revendications que les gilets jaunes répètent depuis un mois et le début du mouvement. Certains sont insatisfaits des mesures annoncées lundi soir par Emmanuel Macron. Farouk Largot était hier sur les Champs-Élysées. Il nie en bloc la baisse de mobilisation et compte bien poursuivre le mouvement jusqu'à faire plier le gouvernement.
Il y avait déjà une augmentation programmée, plus l'inflation, donc il ne reste plus que 40 euros. Les gens, ça ne change rien pour eux, parce que tous ceux qui sont un tout petit peu au-dessus du SMIC et qui ne s'en sortent pas, ils sont encore dans la rue. Et je peux vous dire que même ceux qui les touchent, les SMICards, eh ben, ça ne changera pas les 300 ou les 500 euros de gasoil qu'ils mettent par mois. Donc il nous a balancé des cacahuètes et on va continuer. J'ai pu discuter depuis le 17 avec une majorité de gens. Vous savez, hein, ces luttes-là, c'est pas sur un ou deux jours ou une journée de mobilisation. On le sait très bien. On a pris la référence des Bretons, les bonnets rouges. 40 000 personnes pendant 4 mois. Ils ont fait plier les cotaxes. Les Vikings islandais, eux, pendant 4 mois, ils manifestaient avec des casseroles. S'il faut aller jusqu'au printemps comme ça, hein, penser printemps comme il dit Macron, eh ben, on ira jusqu'au printemps. Tous les samedis sur les Champs-Élysées.
Farouk Largot répondait à Pierre-François Plessis. Strasbourg se recueille ce matin à la mémoire des victimes de l'attentat du marché de Noël. Des centaines de personnes se sont rassemblées à 10h30, place Kléber. Le pied du grand sapin de Noël de la ville éclairé par des dizaines de bougies déposées pour ne pas oublier les 4 morts et les 12 blessés dans l'attaque. Cérémonie émouvante en musique avec plusieurs prises de parole dont celle de Christine Panzer du collectif Strasbourg Ensemble et solidaire.
Strasbourg, Strasbourg, notre ville d'origine ou d'adoption, notre ville de cœur, une ville ouverte, capitale des droits humains, symbole de paix et de fraternité. Elle a été touchée en plein cœur par le fanatisme et l'obscurantisme. Le temps est au deuil et au recueillement et à la solidarité. Nous affirmons que nous ne baissons pas les bras, qu'il nous faut continuer le combat. Pour ancrer l'espérance, pour défendre les valeurs de démocratie et de liberté. Nous affirmons que nous refusons tout discours de haine et que nous chercherons toujours et encore à unir nos forces pour trouver des pistes sociales, éducatives, culturelles, pour lutter contre les forces obscures.
Christine Panzer du collectif Strasbourg Ensemble et Solidaire. L'enquête sur l'entourage de l'assaillant se poursuit. La garde à vue de 4 membres de la famille de Chérif Chekat a été levée, mais un proche du tireur reste entendu par les enquêteurs antiterroristes. Tout ça pour ça, cette phrase résonne une fois de plus à la sortie d'une réunion sur l'avenir du climat. La COP24 qui s'est tenue en Pologne accouche du strict minimum. Les 196 États signataires ont adopté les outils et les règles pour donner vie à l'accord de Paris qui doit s'appliquer dès 2020, mais sans aller plus loin. Rien n'a été décidé pour aller plus vite, mais surtout pour baisser davantage l'émission de gaz à effet de serre. Une COP24 déconnectée de l'urgence climatique, Véronique Rébérotte, l'écart entre réalité et action politique se creuse encore.
Ce n'est plus un fossé, mais un gouffre. En Pologne, il devait y avoir des annonces de chaque pays, des engagements de chacun à réduire encore plus et plus vite leurs émissions de gaz à effet de serre. 80 pays sur 195 ont fait des annonces en ce sens. Beaucoup de pays, petits pollueurs comme les petites îles, directement menacés par la montée des océans, bien insuffisants pour contenir un réchauffement qui s'emballe et qui, dans l'état actuel des choses, dépassera les 3-4 degrés d'ici la fin du siècle. Les émissions mondiales de CO2 sont reparties à la hausse, plus 4% en 2017, 3% de plus pour la France, qui se vante pourtant d'être volontariste dans le domaine, mais qui, au niveau ministériel, a brillé par son absence dans cette COP24. C'est le manque de courage politique des pays riches les plus pollueurs qui a conduit, malgré l'urgence, les États à tourner le dos à la détresse et aux attentes des populations les plus vulnérables. C'est ce que dénoncent en chœur ce matin les ONG. Une société civile qui, tout au long de ce sommet climat, a aussi appelé à plus de justice climatique, de justice sociale, faisant écho au mouvement des Gilets jaunes en France. Enfin, avec cette COP24 où la volonté politique publique a fait défaut, pas de signal fort envoyé au secteur privé, aux entreprises pour qu'elles fassent leur mutation vers une économie bas carbone. L'accord de Paris repose en grande partie sur cette décarbonation du secteur privé, balbutiante et bien trop lente.
Véronique Rebérotte pour France Culture. Rendez-vous maintenant donné l'année prochaine. La 25e conférence de l'ONU sur le climat se tiendra au Chili. Elle devait rester muette, mais elle parle toujours. Les armes ne se taisent pas au Yémen où des bombardements ont fait au moins 29 morts la nuit dernière dans l'ouest du pays. C'est la région d'Hodeïda et son port stratégique qui est ciblé. Et pourtant, une trêve avait été signée en Suède sous l'égide des Nations Unies, Claude Guibal.
À peine 48 heures, même pas, et le bruit des combats à nouveau sur le port de Hodeïda. L'accord de cessez-le-feu conduit jeudi en Suède avait été qualifié d'inespéré après 4 ans de guerre, plus de 10 000 morts et des millions de personnes menacées par la famine. Les rebelles Houthis qui contrôlent le port stratégique de Hodeïda affirment que l'aviation de la coalition pro-gouvernementale menée par l'Arabie Saoudite a bombardé hier soir les quartiers résidentiels de la ville. Au terme de l'accord, pourtant, un cessez-le-feu devait entrer en vigueur immédiatement dans ce port par lequel transite l'essentiel des marchandises qui entrent dans le pays, nourriture, médicaments. L'accord incluait également un échange de prisonniers, 15 000 combattants et tout un mécanisme qui devait permettre de mettre en place les conditions des pourparlers qui doivent théoriquement reprendre fin janvier pour un règlement global. Pour les habitants de Hodeïda, la trêve inespérée n'a donc pas duré, replongeant le pays dans l'enfer.
Claude Guibal pour France Culture. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est le message de Kinshasa envoyé à l'ONU à une semaine des élections présidentielles en République démocratique du Congo. Le pouvoir congolais veut se passer des avions et des hélicoptères de la mission des Nations Unies pour transporter le matériel électoral aux quatre coins du pays, grand comme 4 fois la France. Nous ne sommes pas des mendiants, déclare le président Joseph Kabila. Le candidat d'opposition, Martin Fayulu, multiplie les appels à la communauté internationale après des tirs à balles réelles autour de ses déplacements. Jamal Khashoggi, l'enquête. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, juge essentiel qu'une enquête crédible soit menée sur le meurtre du journaliste saoudien, sans préciser s'il souhaitait une investigation internationale. Jamal Khashoggi a été tué le 2 octobre au sein même du consulat de son pays à Istanbul. Les autorités saoudiennes ont rejeté une demande d'extradition turque des suspects, parmi lesquels 2 proches du prince héritier Mohamed Ben Salman. Il est accusé par Ankara de faire partie des planificateurs du meurtre. 12h et bientôt 40 minutes sur France Culture. Tout de suite, on retrouve Nabila Hamel pour la face cachée du globe. Bonjour Nabila.
Bonjour Martin. Les États-Unis vont plaider pour la fin des missions de l'ONU en Afrique qui ne favorisent pas une paix durable. Désormais, plus d'aide américaine sans résultat dans la nouvelle stratégie de l'administration, affirmé jeudi John Bolton, le conseiller américain à la sécurité nationale, a cité l'exemple du Soudan du Sud, toujours en guerre civile. Faut-il y voir un geste d'apaisement ? Paul Biya a décidé jeudi d'abandonner les poursuites engagées contre 289 détenus arrêtés pendant la crise dans la région anglophone du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En début du mois, le président camerounais, réélu en octobre pour un 7e mandat, avait déjà fait un geste similaire envers 52 opposants qui s'étaient insurgés contre ce qu'ils ont qualifié de hold-up électoral. C'était l'un des rares médias américains connus pour sa ligne conservatrice et en même temps hostile à Donald Trump. L'hebdomadaire américain The Weekly Standard publiera son dernier numéro demain. Si l'éditeur du titre justifie cette décision par un ralentissement des ventes, l'approche critique du magazine vis-à-vis de l'actuelle administration américaine est également considérée comme l'une des raisons de son déclin. En République centrafricaine, va-t-on vers de nouvelles tensions ? Deux des principaux mouvements des milices anti-Balaka, qui se font appeler autodéfense, menacent de se retirer du processus de désarmement mis en place en 2017. Une réaction liée au transfert vers la Cour pénale internationale d'Alfred Rombo Yekatom, chef de milice anti-Balaka le mois dernier, puis à l'interpellation ce mercredi en France de Patrice Edouard Ngaïsona, transféré lui aussi à La Haye. Il était coordinateur général des milices anti-Balaka. À Bangui, c'est une correspondance de Saber Gendoubi.
Les milices anti-Balaka ont juré de se retirer du processus de désarmement si leur grand chef n'est pas libéré ou transféré à Bangui. Certains menacent même de reprendre les armes, selon Igor Lamaka, porte-parole des anti-Balaka.
Ils sont en colère. Ils sont en colère parce que leur leader a été arrêté et ce n'est pas du tout normal parce que nous dénonçons l'ourdie complot monté de toutes pièces par la CPI et les autorités françaises. Voilà pourquoi les enfants sont en colère. Mais nous sommes en train de le contenir.
Fonctionnaire condamné pour corruption en 2002, libéré en 2003 dans la foulée du coup d'État de son bienfaiteur François Bozizé, Patrice Edouard Ngaïsona, ses 15 années d'ascension fulgurante, président de la Fédération Centrafricaine de Football, puis ministre. En 2013, lors du coup d'État des Séléka, Ngaïsona endosse l'uniforme de coordonnateur général d'un mouvement anti-Balaka. Il revendique alors près de 70 000 combattants. Pierre Brunisseau de la FIDH.
Il était au cœur de la machine anti-Balaka. On sait que la formation de ce mouvement de miliciens était assez complexe avec des anciennes forces armées centrafricaines ainsi que des villageois qui s'étaient greffés à ce mouvement de manière spontanée.
2015-2016, l'homme reprend ses activités jusqu'à devenir membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Ses allers-retours Bangui-Paris sont réguliers jusqu'à ce mois de décembre 2018 où il est arrêté en France puis transféré à la CPI.
Rideau sur la COP24, et vous le disiez Martin, à la suite du renoncement du Brésil à accueillir la future COP, le Chili s'est proposé. Son président, Sébastien Piñera, n'est pas forcément connu pour ses positions écolo, mais Justine Fontaine, il a eu quelques gestes, bien qu'encore symboliques.
Pendant la campagne électorale, l'an dernier, Sébastien Piñera n'a quasiment jamais évoqué les questions environnementales. Mais ce milliardaire de droite, qui avait déjà dirigé le pays entre 2010 et 2014, est un grand pragmatique. Et depuis sa prise de fonction en mars, il a pris plusieurs décisions symboliques, comme l'interdiction des sacs plastiques dans le pays et la mise en place d'un plan de réduction du nombre de centrales électriques à charbon. Ce vendredi, sa ministre de l'Environnement, Carolina Schmidt, a déclaré être convaincue qu'un réel développement économique et social n'est possible qu'en respectant l'environnement et que cette conférence sera l'opportunité, dit-elle, de montrer le meilleur des richesses naturelles du pays et de la région. Il faut dire que le tourisme représente 10% des revenus du Chili, un pays où l'énergie solaire a été grandement développée ces dernières années et dont une très grande partie des eaux territoriales bénéficie d'un statut protégé, tandis que les parcs et réserves naturelles occupent près de 20% du territoire. Mais le pays est aussi touché directement par le changement climatique. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, des centaines centaines d'agriculteurs du centre du pays ont déjà dû quitter leur province à cause de la sécheresse.
Plutôt que de le censurer, le Kremlin devrait jouer un rôle de premier plan dans le rap russe. Déclaration quelque peu surprenante hier de Vladimir Poutine. Elle fait suite à l'arrestation du rappeur Husky face au tollé que cela a provoqué dans le pays. Le chanteur, dont les textes sont souvent critiques envers le gouvernement, a été libéré. À dimanche prochain.
Merci Nabila, la face cachée du web à retrouver et réécouter sur franceculture.fr. Un temps encore très perturbé cet après-midi sur l'ensemble du pays, pluie persistante sur un bon tiers sud. Le ciel va rester gris de l'Alsace au centre Val-de-Loire. Un passage pluvieux parfois accompagné d'orages et de fortes rafales de vent touche la Bretagne. Côté température, il fera en moyenne 3 à 11 degrés au sud, 2 à 10 degrés au nord.